Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, au fil des pages, je vous propose de vous intéresser aux médecins et malades célèbres, titre de l'ouvrage de Jacques Batin, paru aux éditions Glyph en 2009. Jacques Batin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine, professeur émérite de pédiatrie et génétique médicale à l'Université Victor Ségalen Bordeaux 2. Vous êtes également membre de la Société internationale d'histoire de la médecine et vous êtes également doctoresse lettres de l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Votre ouvrage nous donne des éléments sur de nombreux médecins du 18e, 19e et 20e siècle qui ne sont peut-être pas forcément célèbres, mais en tout cas vous tentez de les réhabiliter. Nous en parlons dans quelques instants. Et précision supplémentaire, des médecins qui, le plus souvent, se trouvent du côté des Pyrénées. Vous nous direz dans quelques instants pourquoi se trouvent-ils ces médecins du côté des Pyrénées. Parmi les médecins, donc, on retrouve la biographie de Jean-Marie Caillot, précurseur de la pédiatrie à Bordeaux, Paul-Louis Lalande, professeur de médecine légale et maire de Bordeaux de 1900 à 1904, ou encore, plus proche de nous, un éloge du professeur Robert Debré, pour ne citer que quelques exemples. Et non content d'avoir des médecins célèbres, vous avez également recensé quelques malades célèbres. Nous en parlerons à la fin de cette émission. Nous parlerons de la maison des docteurs Blanche. Mais tout d'abord, Jacques Batin, pourquoi la région des Pyrénées est-elle autant représentée dans votre livre ?
Oh, c'est le sud-ouest, c'est la région bordelaise, avec en effet Jean-Marie Caillot que vous citiez, Paul-Louis Lalande, légiste et maire de Bordeaux, le doyen Albert Pitre, qui est véritablement le fondateur de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, qu'il a dirigé pendant 20 ans et qui a créé les premières spécialités médico-chirurgicales. Et puis, il y a en effet, en ce qui concerne les Pyrénées, Larré, le futur baron Larré, le médecin des armées napoléoniennes, et qui est natif de Beaudéan, près de Bagnères-de-Bigorre, qui est un personnage extraordinaire. Et puis, il y a Ramon de Carbonnière, qui a été membre de l'Institut dans la section de minéralogie, car il avait découvert les fossiles du Mont Perdu à 3000 mètres et démontré que c'était des dépôts sédimentaires qui avaient été rehaussés. Et d'autre part, il s'est intéressé aux crétins, aux cagots des Pyrénées. Et là, il y a un chapitre dans son livre « Des observations faites dans les Pyrénées à la suite de celles faites dans les Alpes » qui est tout à fait intéressant.
Et nous en reparlerons peut-être au cours de cette émission. Alors nous n'allons pas tout évoquer sur le livre, il faut laisser quelques surprises au lecteur. Avant de démarrer sur des portraits de médecins célèbres, vous commencez par une histoire de la médecine qui débute en Orient. Est-ce que tout commence en Perse avec la création d'écoles de médecine réputées, Jacques Batin ?
Non, la médecine réputée occidentale, elle est née en Grèce. Elle est née grâce aux écrits hippocratiques, 5e siècle avant notre ère. Et tout cet apport grec et hellénistique, il ne faut pas oublier l'apport de l'école d'Alexandrie, tout ceci aurait été oublié, réduit à néant, s'il n'y avait pas eu le transfert par les arabophones, entre le 9e et le 12e siècle. Ça a été un intermédiaire absolument nécessaire, mais pas seulement un intermédiaire. Et ils ont enrichi ces auteurs arabophones de leur propre expérience. Il y a des grands noms comme Avicenne, qui était musulman, mais qui était un persan. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux dire la médecine arabophone, parce que l'arabophonie était, en cette période de ce grand empire d'Orient, la langue administrative, la langue véhiculaire, comme aujourd'hui, pour se faire connaître, il faut publier en anglais. C'est absolument l'équivalent pour cette période médiévale. Il y avait donc des Arabes, bien sûr, comme Rhazès, il y avait des Persans comme Avicenne et Ali Abbas, il y avait des Israélites comme Maïmonide, et puis il y avait aussi des Latins. Des Latins, vous parliez de la Perse. Alors, ceci fait évoquer le transfert de la Grèce à l'Iran, à la Perse, et finalement aux Abbasides, aux califes Abbasides. C'était des Grecs qui étaient considérés comme hérétiques par les Byzantins, par Justinien en particulier, qui a fermé l'école d'Athènes, qui a chassé ces hérétiques nestoriens. Et ils sont partis fonder des écoles de médecine et des hôpitaux dans la Perse antique, la Perse sassanide. Et ils ont été captés immédiatement par les premiers califes, dont le fameux Haroun al-Rachid, qui était le contemporain de Charlemagne. Et il leur a été demandé de traduire tous les documents, tous les textes grecs, que ce soit des médecins, des philosophes, des poètes, etc., en langue arabe. Et ils maniaient tout à fait les langues. Ils parlaient d'ailleurs araméen dans leur liturgie propre. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce premier transfert du grec à l'arabophonie. Et ensuite, lorsque les chrétiens ont repris l'Espagne et ont repris la Sicile, il y a eu un autre transfert, cette fois, de l'arabe en latin. Et c'est comme cela que ce transfert a permis d'apporter le savoir antique, enrichi encore une fois de l'expérience de ces grands médecins encyclopédistes arabes, à l'Occident latin, et ça a été à l'origine des universités du monde latin, tant en Italie qu'en France.
Dans votre ouvrage, vous avez une partie sur le Coran et la science, et du rapport entre le Coran et la science, avec déjà des conseils de santé, ne pas trop s'exposer au soleil, consommer beaucoup de fruits et de légumes, des conseils qui peuvent paraître simples, mais que l'on trouvait en tout cas dans le Coran.
Tout à fait, c'est du bon sens. Alors, c'est ce qu'on appelle le hadith, c'est-à-dire des propos attribués, à tort ou à raison, bien entendu, au prophète. C'est une médecine populaire, comme il en a existé chez nous, par exemple, au XVIIe. C'était un peu de la médecine domestique, de tous les jours, mais en effet marquée par du bon sens, en ce qui concerne, en effet, les mesures d'hygiène élémentaire que vous évoquiez.
Et puis, vous précisez que dans la médecine orientale arabo-musulmane, comme dans la médecine indienne ou chinoise, l'âme et le corps forment un tout indissociable. C'est ce qui différencie, justement, de la médecine occidentale ?
Non, mais en effet, ils étaient très préoccupés du confort physique. Et c'est pour ça que ces médecins arabophones utilisaient, mais à la suite des médecins grecs et romains, les huiles qui reviennent, comme vous le savez, tout à fait en honneur à notre époque. Eh bien, c'était ce confort. Et ça me rappelle une phrase de saint François de Sales au XVIIe siècle qui disait « Il faut bien traiter le corps pour que l'âme s'y sente bien ». Alors, vous voyez, là encore, il a fallu un certain temps pour comprendre ça. Alors maintenant, on est évidemment dans une toute autre situation où c'est le corps qui est glorifié par rapport à l'âme. On est tombé dans un déséquilibre tout à fait ridicule de ce point de vue.
Venons-en à la partie des médecins célèbres. Alors en l'occurrence, celui-ci, il n'est pas très célèbre, mais on va en parler. Il s'agit de Jean Hameau. Pouvez-nous nous présenter ce personnage qu'est Jean Hameau, qui, je le précise, a fait l'objet d'un ouvrage précédent que vous avez publié aux éditions de L'Antre de Mer, paru en 2008. Et donc, il y a un livre qui lui est consacré et il y a tout aussi un chapitre qui lui est consacré dans votre ouvrage. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Jean Hameau ? Qu'a-t-il de si intéressant ? Et alors, pourquoi a-t-il été oublié s'il était aussi intéressant que ça ?
Oh ben, je vais vous répondre très simplement, parce que j'en ai entendu parler très tôt dans ma petite enfance. Parce que ma mère est née à Arcachon, d'une famille connue dans la région, les Dignac, et elle avait été mise en nourrice. Parce qu'en 1900, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, du lait à la disposition des nourrissons. Donc elle a été mise en nourrice, ce qui a porté une deuxième famille. Et donc, elle a eu des liens très affectifs avec sa mère nourrice, avec sa sœur, et nous en avons bénéficié. Et donc, très petit, je suis allé dans la famille de cette nourrice à la Teste de Buch, dont était originaire ce médecin, Jean Hameau, et c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Car l'aïeul, ou bien elle l'avait connu, ou elle en avait entendu parler, et c'était encore considéré comme un personnage extraordinaire, le médecin des pauvres, des humbles, qui faisait tout le tour du bassin d'Arcachon, qui était le seul docteur en médecine de l'époque, et qui était très, très savant pour son temps, et très dévoué. Et donc, je pense que, moi qui n'avais pas du tout de dynastie d'antécédents médicaux, je pense que ça a été déterminant, parce qu'au moment de choisir, au sortir du baccalauréat, je ne me suis pas posé de problème. Donc, je pense que, vous voyez, Jean Hameau me poursuit depuis la petite enfance, et il s'est trouvé qu'en 2003, alors que je travaillais sur les archives de la Société de médecine de Bordeaux à propos de Jean-Marie Caillot, je suis tombé sur un manuscrit de Jean Hameau de 35 pages, datant de 2008. 1811, où il décrivait ce qu'on appelait à l'époque la carte médico-physique des communes bordant le bassin d'Arcachon. Il faut préciser que Arcachon n'existait pas, c'était le nom de la baie, mais Arcachon n'a été créé qu'en 1857 par Napoléon III, donc presque 10 ans après la mort de Jean Hameau. Et donc il fait la corrélation entre l'état environnemental, comme nous dirions aujourd'hui, l'écologie et les maladies. Alors c'est un manuscrit qui était inédit et je me suis dit qu'il fallait absolument le publier. Voilà, ça a été la motivation. Et manifestement, tous les confrères à qui j'ai montré ce travail, en particulier le professeur Lucien Leminor de l'Institut Pasteur, a été absolument sidéré de voir qu'il avait été un des précurseurs de Pasteur 50 ans avant, qu'il avait dénié l'existence de la génération spontanée. Tout dérive d'un germe, le germe est vivant, il se reproduit, il a vie, il peut donner aussi la mort et il peut être détruit. Donc ça allait jusqu'à la préscience des antibiotiques. Et dans tous les domaines, ça a été un précurseur absolument extraordinaire qui méritait d'être sorti de l'oubli.
Donc voilà, médecin qui n'était peut-être pas forcément célèbre, mais maintenant qui va le devenir grâce à vous. Quel serait, parmi tous les noms que vous évoquez dans votre ouvrage, parce qu'il y a quand même pas mal de noms de médecins, quel est celui qui vous plaît aussi beaucoup, si vous deviez choisir dans le...
Ah, c'est une question difficile parce qu'il y a ceux que j'ai connus, admirés, dont j'ai écouté les conseils, comme le professeur Robert Debré, à qui je consacre un éloge parce que j'ai eu le triste privilège en 1978 de devoir annoncer son décès lors de la réunion de la Société française de pédiatrie à Bordeaux, du professeur Maurice Lamy, que j'ai connu non seulement à Paris mais aussi à Bordeaux, puisqu'il avait une maison de campagne près de Bordeaux, en raison de la présence de son fils dans la région. Donc là, il y a le coefficient affectif, personnel. Mais les médecins de Napoléon, les chirurgiens de Napoléon sont des gens absolument extraordinaires qui méritent vraiment d'être connus et d'être lus, parce qu'ils ont laissé des documents. Et puis, qui vous parlait encore de Ramon de Carbonnière, qui est aussi très attachant pour un titre aussi qui lui est propre, à savoir que c'est le découvreur des Pyrénées. C'est lui-même, on a dit que c'était l'inventeur des Pyrénées.
Et à la donc, fois médecin, naturaliste, il avait plusieurs casquettes, personnage.
Voilà, c'est un Alsacien, c'est un juriste, il a fait un an de médecine, mais enfin, surtout il était juriste. Il a été le conseiller du cardinal de Rohan, vous vous rappelez la triste histoire du collier de la reine. Il l'a défendu, il a montré son innocence parce que le cardinal avait été floué. Et donc, il l'a défendu, mais n'empêche que Louis XVI l'a exilé. Et donc, c'est comme ça que le cardinal Rohan et Ramon de Carbonnière sont partis à Barège. Et là, Ramon a découvert les Pyrénées. Et il a été un des premiers à gravir le couloir de Tuquerouille avec des crampons aux pieds, avec la corde. C'était déjà un alpiniste. Alors que celui dont il fait le commentaire, William Cox, il faisait le parcours des Alpes en calèche, en dandy anglais. Donc lui, c'était un homme de terrain. Et on peut dire que quand on est pyrénéiste, comme c'est mon cas depuis presque un demi-siècle, on marche sur les traces de Ramon. Alors il y a cela, il y a le côté naturaliste, ethnographe, et vous disiez qu'il était membre de l'Institut, et il a été également membre libre de l'Académie de médecine lors de sa fondation en 1820. Et je pense que c'est parce qu'il avait une compétence dans les stations thermales, en particulier Bagnères de Bigorre, où il résidait souvent, il avait des membres de sa famille, et il a écrit, alors c'est une histoire très très rocambolesque, et il a été prisonnier en 1794, il a été mis en prison à Tarbes, et là, il est tombé sur un geôlier qui avait besoin de faire un rapport sur les stations thermales des Pyrénées pour le comité de salut public, pour soigner les nobles soldats de la République. Et donc, ce geôlier n'y connaissait rien, Lomé, si mes souvenirs sont bons, et il a demandé, évidemment, naturellement, à son prisonnier, Ramon, de lui faire ce rapport, qu'il n'a pas pu signer. Bien entendu, parce que Ramon de Carbonnière, qui avait déjà évidemment omis sa particule, mais il aurait pu paraître suspect, et parce qu'il avait été feuillant, il était ami des feuillants, donc il n'était pas du côté de robespierriste. Et finalement, d'avoir été en prison, lui a sauvé la vie. a sauvé la vie. Il en est sorti, évidemment, lorsque la tête de Robespierre est tombée. Mais c'est tout à fait rocambolesque,
cette histoire. Nous invitons nos auditeurs donc, à lire votre ouvrage pour en savoir plus. Le temps passe, venons-en.
Et les cagots, parce que Hamon parle des cagots et des crétins. Alors c'est toute l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Les chrétiens, d'où ça vient? Et je pense qu'il avait de très bonnes idées. C'est tous les parias. Alors c'est un mélange, ça a commencé par les Ariens, c'est-à-dire les Visigoths, qui étaient des chrétiens, mais qui étaient hérétiques. Ah, et pourtant, ce sont des chrétiens, et ça donnait crétins. Et en Espagne, ils appellent les cristianos. Alors après, ça a été mélangé, c'était les lépreux, c'était tous ceux qui n'étaient pas conformes, voilà.
Et notamment donc, les crétins goitreux des Hautes-Alpes qu'il décrit, et dont vous avez pris aussi, je crois, des photos.
Dans les Pyrénées, oui, j'ai pris les dernières photos des crétins des Pyrénées, c'était vraiment le monde de Lilliput. Oh, c'était au tout début où je maniais l'appareil photographique, ça remonte ça aux années 50. Il n'y en a plus maintenant, hein, bien sûr, parce qu'on dépiste d'abord depuis 1980 l'hypothyroïdie congénitale, donc il n'y a aucune raison de voir des crétins. Voilà une affection qui a complètement disparu grâce à la prévention. Mais j'ai vu les derniers, bien entendu, comme il y en avait beaucoup dans les Alpes.
Venons-en, le temps passe, à la dernière partie de votre ouvrage consacré aux patients, les malades célèbres. Alors notamment, les malades célèbres, on en trouvait dans la maison des docteurs Blanches. Maison des docteurs Blanches qui se trouvait à Montmartre, puis à Passy, qui était une clinique privée, hein, clinique
tout à fait.
Voilà, une psychiatrie privée.
Tout à fait, une des
on
premières.
On y retrouvait Gérard de Nerval, Guy de Maupassant, et encore d'autres, Berlioz aussi, il me semble.
Théo Van Gogh.
Théo Van Gogh, le frère de Vincent Van Gogh. Pouvez-vous nous parler de cette maison? Comment elle est née? Dans quelles circonstances?
Alors, ces Blanches sont extraordinaires. C'est toute une lignée qui est d'origine rouennaise. Et puis, Esprit et ensuite Antoine ont été internes des hôpitaux de Paris et c'était des aliénistes. Alors, c'est le moment où les malades de psychiatrie passent de l'asile d'aliénés à des maisons de soins tout à fait adaptées à leur état. On ne parlait pas encore de psychiatrie, mais c'est ce clivage. Et donc, c'était l'occasion de rappeler Pinel, qui libère les aliénés de leur chaîne, à Bicêtre, puis à la Salpêtrière, d'Esquirol, et qui contribue à établir la nosographie des maladies mentales. Et puis, Esprit, puis Antoine, vont donc fonder une maison de santé privée.
Maison de luxe, hein, bien sûr, pas forcément accessible à tous.
Mais ils adaptaient en fonction des revenus de chacun. C'était des gens qui étaient quand même des apôtres d'une certaine manière, qui ne sortaient pas de leur maison, qui les malades mentaux vivaient avec eux. C'était une façon évidemment un peu paternaliste d'envisager les choses, mais c'était mieux que l'hôpital, qui n'était pas encore ce que l'on connaît maintenant. Et donc à Montmartre d'abord, puis ensuite à Passy, dans le château qui appartenait initialement à la princesse de Lamballe. Vous voyez, cette évolution extraordinaire. C'est là où est venue souvent l'amie de la princesse de Lamballe, Marie-Antoinette. C'était les fêtes, ce 18e finissant, où Marie-Antoinette ne se rendait pas compte de l'état de la France à ce moment-là. Un château qui remontait, je crois, au duc de Lauzun. Et puis, ça a été acheté, ou loué plutôt, par Antoine Blanche. Et là, il a reçu, mon Dieu, on peut dire, tout le monde des lettres, des arts, dont certains étaient malades, et d'autres non. Et d'autres non, mais qui venaient là parce que c'était véritablement une maison, comme un salon. C'était à la fois une maison de santé psychiatrique privée et en même temps un salon littéraire, artistique, parce que les artistes se sont toujours sentis fragiles d'une certaine manière. Et là, ils savaient qu'ils avaient un recours. C'est une situation vraiment très, très particulière.
Et dans votre livre, alors, on peut lire notamment que Guy de Maupassant avait des hallucinations, comme beaucoup d'ailleurs, hein, des patients qui étaient dans cette maison, des hallucinations. Et au bout d'un certain temps, il plantait des petites branches et il était persuadé qu'elles donneraient des petits Maupassants. Ou alors après, il finissait par poursuivre dans le jardin un ennemi imaginaire.
Oui. Il avait la paralysie générale, voilà une maladie qui a disparu, la syphilis nerveuse. C'était épouvantable, n'est-ce pas, hein? Que ça touche le cerveau ou que ça touche la moelle, comme c'était le cas d'Alphonse Daudet avec les loups. Douleur effroyable qu'il a décrite dans la Doulou. Mais Daudet, là, ne fréquentait pas cette maison. Il était soigné par Charcot, lui.
Jean-Martin Charcot. Gérard de Nerval, lui aussi, touché par des hallucinations qui finira tristement en se suicidant.
Oui, ça... Gérard de Nerval, il avait ce qu'on appelle maintenant la psychose bipolaire, la psychose maniaco-dépressive. Donc, il avait des alternances de périodes d'excitation, délirante, où là, il fallait aller le chercher, lui mettre la camisole de force. Et on n'avait pas tous les neuroleptiques d'aujourd'hui. Et puis, à d'autres périodes, il était profondément dépressif. Là, il était au creux de la vague. Mais il y avait des intervalles où il était normal. Et ce qui explique qu'il ait pu faire des voyages en Allemagne, en Orient. On peut trouver à l'exposition récente sur Byzance la relation qu'il a faite de Constantinople. Et puis, écrire des poèmes. Et Aurélia, qui est une véritable psychanalyse de sa situation. Donc, voilà, il y avait trois Gérard de Nerval. Et malheureusement, il a fini un jour d'hiver où il avait mis son manteau au Mont-de-Piété et il est allé se pendre à une grille. C'est épouvantable.
Eugène Delacroix, qui dessinait des déesses sur les panneaux de sa porte de chambre.
Ah oui, il venait le visiter en ami. Oui, parce qu'il n'a pas fréquenté la maison en malade. Oui. Mais il venait en ami des malades. Oui, donc cette maison des docteurs Blanche était un lieu absolument extraordinaire dans Paris, un haut lieu.
Alors nous invitons nos auditeurs, pour en savoir plus, à consulter votre ouvrage. Je vais redonner le titre, Médecin et malade célèbre, avec une préface d'Yves Pouliquen de l'Académie française, paru édition Glyph en 2008. Et j'invite également nos auditeurs à écouter l'émission Parcours consacrée à Joseph Ignace Guillotin, qui fait partie des médecins célèbres que vous citez dans votre ouvrage. Nous allons lui dédier une émission particulière parce qu'il fait partie de ces parcours assez curieux et nous allons peut-être essayer de le réhabiliter.
Tout à fait, bien typique.
Merci Jacques Batin et donc à bientôt
Merci
pour une
à
prochaine
vous.
Émission.
Merci à vous.